C'est une joie de vous partager avec vous la parole de Dieu. Un jour, un jeune homme s'est réveillé et il a consacré toute sa vie pour Jésus. Quand on le représente dans une crèche, il est toujours debout. Avec un bâton. Je ne sais pas si c'est ainsi qu'il a été au moment où Jésus est né. Mais ceci me fait penser à l'ordre de Dieu à Moïse quand il fallait tuer un agneau et quitter l'Égypte. L'ordre de Dieu était que chacun doit être prêt à partir, les reins sains et les chaussures aux pieds. Et c'est ainsi qu'il mangeait l'agneau pascal à l'époque. Et quand je vois l'illustration qu'on donne à Joseph, parce que c'est Joseph, l'époux de Marie dont il s'agit, je me dis, voilà un homme prêt. Prenons le texte de l'évangile de Matthieu. Au chapitre 1er, nous lirons la généalogie de Jésus qui nous est donnée ici. Matthieu au chapitre 1er. Vous avez peut-être remarqué que j'aime bien les personnages bibliques. Et souvent, je vous parle de personnages bibliques. Donc Matthieu, chapitre 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar Pérets et Zara. Pérets engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Assa. Assa engendra Josaphat. Josaphat engendra Zoram. Zoram engendra Ozias. Ozias engendra Jotam. Jotam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abihu. Abihu engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hachim. Hachim engendra Eliu. Eliu engendra Éléazar. Éléazar engendra Mattan. Mattan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie et de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre en secret avec elle. Comme il y pensait, Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. La généalogie ici nous parle de Joseph. L'évangéliste Matthieu, qui nous rapporte cela, situe la généalogie de Jésus à travers Joseph depuis Abraham. Cette généalogie a pour but de situer cet homme qui sera l'époux de Marie. Nous constatons que, comme Jésus, Joseph était de la lignée de David, d'Abraham. Mais au verset 16, nous constatons dans cette série de répétitions du verbe « engendrer », nous constatons un changement de terme dont l'importance est capitale. Il nous est dit, à ce verset 16, « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. » Nous constatons là que on n'utilise plus le terme « qui engendra », mais il est question de Joseph qui devint l'époux de Marie. Joseph n'a pas engendré Jésus. Il est déclaré comme l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Jésus n'est pas conçu par une génération naturelle de père-fils. L'ange dit bien, au verset 20, « Cet enfant est conçu par le Saint-Esprit, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » On met le cadre. On situe Joseph. Il est de la lignée royale. Fils de David, fils d'Abraham. On regarde ensemble la mission de Joseph. Dieu confie à Joseph la mission de devenir l'époux de Marie. Mais être l'époux de quelqu'un, d'une femme telle que Marie, cette personne doit assumer toutes les responsabilités d'un mari. Et quand l'enfant sera là, il aura aussi la responsabilité d'un père. C'est ce que voulait l'ange pour Joseph. Mais Joseph avait les yeux d'homme, de la culture humaine. Quand il a appris que Marie attendait un enfant, il voulait quitter Marie. Alors l'ange du Seigneur, dont il est question ici, devait le convaincre. Et pour le convaincre, il dévoile à Joseph l'origine et la mission de cet enfant. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. vous regarderez dans les quatre évangiles où la vie de Jésus est rapportée, dans les deux où la naissance de Jésus nous est rapportée, vous ne trouverez pas une parole de Joseph. Joseph ne discute pas. Joseph ne parle pas. Il agit. Exemple, voyons ces trois actions successives de Joseph. Premièrement, il prend Marie avec lui, selon l'ordre de Dieu transmis par l'ange. Le verset 24. C'est vrai que la notion, les démarches, la culture pour le mariage en Orient n'est pas pareil qu'ici. Les personnes sont déclarées comme femme et mari, épouse, époux, dans la période que nous appelons fiançailles. Et à un moment donné, après avoir préparé l'ensemble des moyens pour l'accueillir, l'homme va chercher sa femme, pas sa fiancée, sa femme. Donc il était encore dans ce temps d'attente. Peut-être qu'il était en train de construire une maison pour Marie, pour accueillir Marie. Peut-être que la maison est déjà sur pied, mais il fallait l'emménager. Il était peut-être dans cette période-là. Mais l'ange intervient. Prend Marie pour femme. Et l'ange explique. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prend Marie avec lui, selon l'ordre de Dieu transmis par l'ange. Première action. Deux, il décide de ne pas avoir de relation intime avec elle, jusqu'à la naissance de l'enfant. C'est le verset 25. Deuxième décision. Troisième décision, il donne à l'enfant le nom de Jésus. Le verset 25. Moi, je suis fasciné par cet homme. Cet homme silencieux, mais qui agit. Regardons ensemble son caractère face à différentes situations qui se manifestent dans ce premier chapitre de Matthieu. Le verset 19 dit qu'il était un homme de bien. Il ne voulait pas que Marie soit mise en danger, selon la loi juive. Alors, il voulait rompre. Joseph manifeste ici de la bonté. Il était de nature bonne. Nous constatons aussi qu'il était plein d'humilité par sa discrétion, par sa façon de réagir face à cette découverte délicate, honteuse envers Marie. Il se proposa de rompre discrètement avec elle. Là encore, nous n'entendons pas Joseph. Il est patient. Il sait attendre. Il sait attendre parce que tant que l'enfant était dans le ventre de Marie, il ne toucha pas Marie. Patience de Joseph était accompagnée d'un esprit de sagesse. Il est obéissant. Nous avons déjà vu ce verset 24. Il a entendu il a agi. Dans le chapitre 13 de Matthieu et au verset 25, non, 13:55, verset 55, dans une autre circonstance, des personnes disent, rapportent ceci. N'est-ce pas le fils du charpentier, en parlant de Jésus? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Dans ce petit verset, nous découvrons le métier de Joseph. N'est-ce pas le fils du charpentier? Il est connu par son métier. C'était peut-être un bon charpentier. Et ça a marqué les gens. Il n'utilise pas son nom, mais son activité. Le charpentier. Je ne sais pas vous, mais j'imagine que le travail du charpentier n'est pas un travail facile. Plutôt, ça demande de la force. Et ainsi, avec cet indice, je peux imaginer que Joseph n'avait pas une main douce, comme un bureaucrate, tel que moi. Mais il avait la main rude, plein de la peau est dure. Alors Joseph, pour moi, quand je lis tous ces textes-là, je découvre qu'il s'agit d'un homme d'un côté plein de force, costaud, qui pouvait soulever des poutres, et d'un autre côté un homme plein de douceur. Son personnage manifeste sécurité et bonté. C'était Joseph. Et tout cela me fait penser à certains versets de la parole de Dieu où ces points de caractère de Joseph sont encouragés. Par exemple, dans ce verset de Philippiens 4:5, on lui dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Joseph était ainsi. Et moi, en tant que disciple du Seigneur Jésus, aujourd'hui, la parole de Dieu m'encourage à ce trait de caractère. Douceur, mais pas la paresse. Douceur, mais plein d'action. Dans 1 Pierre 3, il y a la parole de Dieu aussi, nous encourage à avoir une certaine attitude. 1 Pierre 3, 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Dieu nous encourage à observer certains hommes de la Bible et d'entretenir certains faits de caractère. Ici, Joseph manifeste vraiment cette main de fer, j'allais dire, avec un gant, plein de douceur. C'est Joseph. savez-vous que Dieu a utilisé Joseph pour accomplir certaines prophéties? Le saviez-vous? Peut-être que vous êtes passé rapidement dessus. Vous ne vous êtes pas arrêté. Par son caractère, Joseph va devenir un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir plusieurs prophéties. La première étant celle d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14, qui est citée dans les versets 22 à 23 dans notre texte de Matthieu. Verset 22 du chapitre 1er de Matthieu. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et le verset 22 qui introduit le 23 nous dit: tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et cette prophétie, nous la trouvons dans Ésaïe au chapitre 7 et le verset 14. Joseph, par son caractère, par son attitude obéissante à Dieu, Dieu va l'utiliser pour accomplir une grande prophétie concernant le Messie. Joseph, un instrument de Dieu. Bien sûr, quand on lit dans ce texte, nous découvrons plusieurs noms du Seigneur Jésus. Rapidement, nous, par exemple, nous découvrons que Jésus est appelé Emmanuel dans la prophétie d'Ésaïe 7, 14. Ce nom manifeste sa nature. Nous pouvons le rapprocher, bien sûr, à la prophétie. Mais dans Matthieu chapitre 1 verset 23, il nous est même donné la signification, Dieu avec nous, la nature de Jésus. Nous y voyons aussi qu'il s'appelle Christ qui veut dire Messie en hébreu et qui a le sens d'être oint, consacré. C'est son titre officiel, le Messie attendu depuis longtemps par son peuple. Et enfin, le nom de Jésus, c'est son nom d'homme que ses parents humains auront la responsabilité de lui donner. Il est cité ici au verset 21, mais dans Luc, il est parlé aussi de Marie, dans le chapitre 2 de Luc aussi. Alors ne soyons pas troublés par les différents noms du Seigneur Jésus. Joseph et Marie avaient la responsabilité de lui donner le nom de Jésus, pas le nom d'Emmanuel. Alors revenons à notre personnage, l'homme réveillé. C'est de ça dont il s'agit ici. À partir de ce verset 24, s'étant réveillé, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Depuis ce verset, Joseph ne s'endort que d'une seule oreille. Il était à l'affût. Il était à l'affût des directives de Dieu pour accomplir sa mission. Nous pouvons dire que Joseph s'est réveillé pour obéir. Telle devrait être l'attitude de chaque personne qui devient disciple de Jésus-Christ. On ne devient pas disciple de Jésus-Christ pour agir seulement le dimanche d'aller au culte. Mais tous les jours, nous devons être à l'affût des directives de Dieu en utilisant la parole écrite qui est à notre disposition, mais aussi en priant, nous l'avons chanté tout à l'heure, mais aussi en étant en éveil à travers toutes les circonstances de la vie, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers ceci, cela? Joseph, un homme réveillé pour obéir à Dieu. Dans Matthieu, au chapitre 2, verset 14, nous découvrons encore l'acte d'obéissance, un acte d'obéissance de Joseph. Verset 14, il nous est dit: afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon, de Nephtali, de la contrée du Jourdain, voisine de la mer. Non, je vais lire un peu plus haut. Verset 13. 12 même. Jésus ayant appris que Jean avait été livré. Non, je ne suis pas au même chapitre que vous. Je ne suis pas au même chapitre que vous, j'étais au chapitre 4. Alors, revenons à notre chapitre 2. Chapitre 2, verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Une attitude encore de Joseph face au danger qui menace sa petite famille et en particulier l'enfant Jésus. Donc au chapitre 2, là, verset 14, par son obéissance, Joseph se leva à nouveau pour mettre en sécurité l'enfant et sa mère. Là encore, selon Matthieu, chapitre 2, verset 15, Joseph est l'instrument de Dieu pour l'accomplissement d'une autre prophétie, celle d'Osée, au chapitre 11, verset 1, « Et j'appelai mon fils hors d'Égypte. » Là encore, par son obéissance, Joseph participe à l'accomplissement d'une autre prophétie. Puis, au verset 19 et à 23, là encore, une prophétie d'Ésaïe qui est donnée. Lisons ces versets-là. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte. Et il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans la ville appelée Nazareth. Et Matthieu rajoute, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Est-ce que Joseph l'a voulu? A préparé ces situations-là? Non. Il a seulement obéi à Dieu. Et nous découvrons ici trois prophéties concernant le Messie qui s'accomplit et que Joseph en est un des participants. Il sera appelé Nazaréen. Alors pour utiliser un terme que nous utilisons aujourd'hui, Joseph était un homme connecté. Alors, il était de ces gens qui écoutent, agissent. Et nous découvrons cet enseignement pour nous dans Jacques. Dans Jacques au chapitre 1er, nous découvrons que nous sommes appelés non pas à écouter seulement, mais à mettre en pratique la parole. Alors, Joseph, pour nous ici, est une illustration de cet enseignement que donne le Seigneur à travers l'épître de Jacques. Il est aussi l'illustration d'un passage dans Éphésiens 2, au verset 10. Il a réalisé les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour lui. On peut se poser des questions, on se dit, mais Seigneur, tu ne me dis jamais rien, tu ne me dis jamais où est-ce que je dois, qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que Joseph s'est posé la question? Il a participé à l'accomplissement des prophéties concernant le Messie en obéissant. Et puis ce Joseph, sans faire un pot de départ, il disparaît tout d'un coup. La dernière fois où on le voit, c'est le jour où Jésus fait sa petite fugue à Jérusalem. Il avait 12 ans, Jésus. Et après, on n'entend plus parler de Joseph. Dieu a considéré qu'il avait fini sa mission. Mais on peut se poser la question, mais est-ce que pour Joseph c'était le point final? Peut-être. Mais le point final, je dirais même l'objectif, c'est ce que l'ange avait prévu. Revenons dans Matthieu au chapitre 1er et au verset 21. Quand l'ange dit à Joseph concernant Jésus, elle, Marie, enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Joseph était un instrument. Mais l'instrument n'est pas le but final. Je peux vous dire, on peut jouer un orchestre formidable ici à l'église avec des instruments inimaginables. Mais ce n'est pas l'objectif de jouer, mais c'est honorer Dieu. Et Joseph était quelqu'un qui honorait Dieu. Il voulait que cet enfant qui a été conçu poursuive sa route et sa mission. Jésus est la solution face aux problèmes du monde entier. L'objectif de Dieu, c'était pas Joseph, c'est l'enfant dont Joseph devait en prendre soin. Joseph avait compris l'importance de cet enfant. J'espère que nous, quand nous nous réveillons, au moment où nous sommes réveillés au moment de notre conversion, nous réalisons l'importance de Jésus. Lui, Joseph, en tant que papa adoptif, il réalisait l'importance de ce qu'est ce bébé qui arrive et qui sera appelé Emmanuel, qui portera le nom de Christ et qui sera appelé Jésus. Emmanuel, Dieu est avec nous. Christ, celui qui a été consacré loin de Dieu. Et Jésus, Yeshua, le Sauveur. Il était clair pour Joseph que la clé de la vie de chaque être humain se trouver dans cet enfant. Alors, il a consacré toute sa vie. Joseph, l'homme d'action, mais aussi l'homme discret. Nous savons, pour nous, que selon la parole de Dieu, l'homme est privé de la gloire de Dieu parce que l'homme est pécheur. Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en cet enfant qui est né du temps de Joseph. Saisir l'importance de Jésus, c'est d'y consacrer sa vie. Joseph a mis de côté tout son ego. Vous pouvez imaginer un jeune homme qui aime une femme, une jeune fille, et qui tout d'un coup, Dieu lui dit, c'est pas le moment. Cette jeune fille-là, elle a une mission très particulière. Tu vas t'en occuper, mais tu ne la touches pas. Imaginez tout ce qui se passe dans le cœur de Joseph. Joseph a mis de côté son ego, ses intérêts personnels, et a pris le bras-le-corps, toute sa responsabilité. Car il sait que le but final, c'est le salut du monde. Et cela, nous le savons bien sûr dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que la vie de Joseph vous parle? Est-ce que vous n'aimeriez pas être quelqu'un qui, j'allais dire, ait cette facilité d'obéissance? Mais je ne pense pas que ça ait été facile pour Joseph. Alors nous avons, chacun d'entre nous ici, une réponse à donner. Vous n'avez pas compris l'importance de Jésus jusqu'à maintenant? Réveillons-nous et regardons le Seigneur Jésus dans toute sa gloire, dans toute son importance, dans tout ce dont nous avons besoin. Réveillons-nous. Et si nous sommes réveillés, agissons, marchons avec Jésus. Et actuellement, c'est l'Esprit Saint que Dieu a donné pour que nous soyons des personnes qui marchent en action et non pas des personnes qui s'endorment. Savez-vous que dans ce monde, nous avons tous les moyens pour nous endormir, en particulier devant la télé ou devant notre ordinateur, ou devant les fêtes, et nous oublions totalement Jésus et sa place dans notre vie. La vie de Joseph nous parle, et nous devons donner une réponse. Joseph a pris sa part, et il a consacré sa vie. Est-ce que nous sommes prêts à consacrer notre vie à Jésus, comme Joseph l'a fait? Voilà la question. Alors, merci Seigneur, parce que tu as donné cette illustration. Cet homme toujours debout dans la crèche. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ta parole. Merci Seigneur pour que nous ayons les yeux ouverts, le cœur réveillé, pour être à l'écoute de ce que toi tu dis et de pouvoir mettre en pratique, guidé par ton esprit. Amen.